Bienvenue sur les chroniques de la Revue française de comptabilité. À l'occasion de la parution de son 600e numéro et des 70 ans de la revue, la RFC publie une édition spéciale. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse consacrée à l'autorité des normes comptables, intitulée « Un référentiel comptable qui fait autorité », inspirée de l'article de Robert Ophel, président de l'ANC, et de Géraldine Viollard-Denoy, directrice générale de l'ANC. Notre mission aujourd'hui, explorer un peu comment la normalisation comptable s'est construite en France, et puis bien comprendre le rôle central de l'ANC aujourd'hui. Alors, pour bien saisir cette importance de l'ANC, peut-être un petit retour en arrière s'impose. Juste après-guerre, on a eu le plan comptable général, le fameux PCG de 1947. C'était une première étape, c'est sûr, mais très centrée sur les besoins internes de l'entreprise.
Oui, c'est ça. On était assez loin d'une doctrine vraiment unifiée. Hein. Il y avait pas mal d'approches sectorielles et puis les règles, bon, elles étaient quand même assez souples, peu contraignantes finalement.
Et cette diversité, elle a duré un certain temps.
Effectivement, elle a longtemps prévalu. Il a fallu attendre 1957 et la création du Conseil national de la comptabilité, le CNC, pour qu'on commence à avoir une volonté d'harmoniser un peu les choses.
Mais son rôle était limité, si je comprends bien.
Tout à fait, c'était un rôle consultatif. Le vrai tournant, il arrive plus tard, avec la réforme de 1996-1998. Là, on crée le Comité de la réglementation comptable, le CRC.
Ah oui, le CRC. Et lui, son rôle était différent.
Ah oui, radicalement. Le CRC, lui, il avait le pouvoir d'édicter des règlements qui étaient obligatoires. Par exemple, le nouveau PCG de 1999 ou les règles sur les comptes consolidés. Ça, c'était vraiment l'acte fondateur d'une normalisation beaucoup plus structurée, plus contraignante.
D'accord. Et puis ensuite, il y a eu l'arrivée des normes internationales, les IFRS.
Exactement. Au début des années 2000, l'adoption obligatoire des IFRS pour les comptes consolidés des sociétés cotées, ça a bousculé pas mal de choses. Du coup, la France, elle avait besoin d'une structure, disons, plus réactive, plus efficace et aussi plus influente à l'international, notamment en Europe.
Et c'est là qu'intervient l'ANC en 2009.
C'est ça. L'ANC, elle est née de la fusion des missions du CNC et du CRC pour tout ce qui concerne la comptabilité privée.
Donc pour regrouper les forces en quelque sorte.
Voilà, l'idée c'était vraiment de créer un pôle unique, un pôle fort. Son mandat, il est assez clair, il est triple en fait. Premièrement, établir les normes comptables françaises pour toutes les entreprises, hors secteur public bien sûr, et après homologation.
D'accord.
Deuxièmement, promouvoir et défendre les positions françaises dans les débats internationaux. Et troisièmement, veiller à la bonne application des normes.
Et comment elle fonctionne, cette ANC, sa structure ?
Alors, elle s'appuie sur un collège de 18 membres. C'est important parce qu'il reflète une diversité d'expertise, des préparateurs de comptes, des utilisateurs, des professionnels, des académiques. Et elle consulte très largement les parties prenantes via des commissions spécialisées. C'est un fonctionnement assez pluraliste.
Mmh.
Et puis, elle travaille en lien étroit avec les régulateurs, l'ACPR pour la banque et l'assurance, et l'AMF pour les marchés financiers. C'est essentiel pour la cohérence globale.
Je vois. Et concrètement, depuis 2009, quelles ont été les grandes actions de l'ANC ? Vous parliez de modernisation ?
Absolument. Un gros chantier a été la refonte du PCG en 2014. C'est devenu le règlement unique, beaucoup plus lisible.
Oui.
Ensuite, l'ANC a complété ce socle avec des règlements sectoriels, quand c'était nécessaire. Banque, assurance, mais aussi le secteur non lucratif qui a connu une réforme vraiment structurante.
Ah oui, c'était attendu ça. Hein.
Très attendu. Et puis, il y a eu un gros effort de codification des textes. Ça, pour les professionnels au quotidien, ça simplifie énormément l'accès au droit comptable.
Et sur le fond des normes elles-mêmes.
Il y a eu aussi des réformes importantes, comme la modernisation des états financiers, avec par exemple une définition enfin précise du résultat exceptionnel. Ça clarifie beaucoup la lecture de la performance récurrente d'une entreprise.
Et cette modernisation, elle doit aussi s'adapter en permanence, j'imagine, hein, aux évolutions économiques.
Tout à fait. L'ANC doit être agile. Elle traite des sujets comme les fusions, les nouveaux instruments financiers, les crypto-actifs plus récemment, ou même les conséquences d'une crise comme la crise sanitaire. L'approche est pragmatique, on regarde ce qui se passe à l'international, notamment les IFRS, mais ce n'est pas un alignement systématique, loin de là.
Ah, c'est intéressant ça. Il y a des divergences assumées.
Oui, quand les spécificités françaises le justifient. Je pense par exemple au poids très important des PME dans notre tissu économique, ou au lien très fort ici entre la comptabilité et la fiscalité. Dans ces cas-là, l'ANC maintient ou adapte des règles nationales spécifiques, mais toujours en expliquant pourquoi cette divergence est pertinente. C'est un équilibre constant à trouver.
Et quid de l'influence internationale ? C'était un des objectifs de la création de l'ANC ?
Oui, c'est une mission clé. L'ANC est très active dans les travaux de l'IASB, donc l'organisme qui élabore les normes IFRS au niveau mondial. Et surtout, elle est très présente au niveau européen via l'EFRAG. C'est l'organisme qui conseille la Commission européenne pour l'adoption des normes IFRS en Europe.
Et la voix française est entendue ?
L'expertise technique française est, je crois, assez reconnue. On essaye d'apporter des positions pragmatiques. Bon, après, peser réellement sur les décisions internationales, ça reste un défi permanent. Il faut être lucide.
Bien sûr. Et puis, il y a un nouveau domaine qui monte en puissance de manière spectaculaire, l'information de durabilité, le reporting extra-financier.
Ah oui, ça, c'est un changement majeur et très récent dans les missions de l'ANC. Même si l'autorité s'y intéressait déjà depuis 2010, notamment via des travaux de recherche.
Mais là, c'est devenu une compétence officielle.
Exactement. Fin 2023, avec la transposition de la directive européenne CSRD, les compétences de l'ANC ont été officiellement étendues à la durabilité.
Et concrètement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que maintenant, l'ANC donne son avis sur les projets de normes de durabilité européenne, les fameuses ESRS. Elle participe activement à leur élaboration au sein de l'EFRAG, comme pour les normes financières. Et point très important, elle a un rôle crucial d'accompagnement pédagogique des entreprises françaises. Elle publie des guides pratiques pour les aider à s'approprier ces nouvelles obligations complexes.
Donc si on essaie de synthétiser un peu tout ce parcours, on partait d'organismes plutôt consultatifs ou très techniques, comme le CRC, et on arrive à une autorité de normalisation, l'ANC, qui est devenue vraiment complète. Et influente.
Oui, c'est une évolution assez remarquable. C'est une institution qui a vraiment su adapter le modèle français en gardant certaines spécificités importantes, comme l'attention portée aux PME, tout en s'intégrant pleinement dans le paysage international. Strict cadre financier pour embrasser la durabilité. Elle devient un pilier de la transparence globale des entreprises, financières et extra-financières.
Ce qui amène d'ailleurs une question intéressante pour conclure peut-être. Avec cette compétence élargie à la durabilité, est-ce que l'ANC n'est pas en train de devenir, au fond, un acteur central de la gouvernance d'entreprise au sens large, bien au-delà de la seule technique comptable ? C'est une piste de réflexion. La Revue française de comptabilité vous remercie et vous donne rendez-vous sur le site revuefrancaisedecomptabilité.fr.